Nous verrons donc notre Bible à cet épître de Jacques. J'espère que c'est correct. Merci. Nous commençons la lecture, c'est premier. Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Estimez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en but à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accompli, ne manquant de rien. Un peu plus loin, verset 16. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout ce qui nous est donné de bon et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de variation ou d'ombre de changement. De sa propre volonté, il nous a engendrés par la parole de la vérité. Nous soyons une sorte de prémisse de ces créatures. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute saleté et tout débordement de malice, recevez avec douceur la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Mais mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement, vous séduisant vous-même. Voilà, nous allons nous arrêter là pour le moment. Nos chers amis, nous avons pensé à cet épître de Jacques, avec Charles. Non pas pour en faire une étude détaillée, mais simplement comme une lettre qui nous est adressée de la part du Seigneur, et une lettre qui, dans laquelle nous voudrions faire ressortir tout son aspect pratique. C'est-à-dire comment notre vie chrétienne peut trouver son accomplissement, sa progression, nous l'avons encore dit dans la prière, sa maturité en quelque sorte, par l'application et l'exercice tout au long de notre vie à chacun. La première lecture que je viens de faire est une sorte d'introduction. Je ferai une deuxième lecture pour m'arrêter sur un ou deux sujets particuliers du chapitre 3 et 4. Et Charlie fera une présentation d'autres pensées sur le chapitre 2 et 5. C'est très difficile de faire un découpage. C'est une épître, et vous allez le voir à travers la lecture, et ce que nous allons rappeler, c'est une épître qui n'est pas, où on voit qu'un apôtre se presse, ou plutôt les mots se pressent dans la bouche de l'apôtre. Il va d'un sujet à l'autre, et puis il revient sur ce sujet. Il est pressé de parler à ses frères. Vous noterez le nombre de fois où on entend dire du frère. Mes frères bien-aimés. C'est l'apôtre Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il se présente. Il s'agissait de Jacques, du demi-frère du Seigneur, de ce Jacques que nous trouvons dans Acte 15, en particulier lorsque les apôtres étaient venus faire un compte rendu de leur voyage et lui, quand le fondé de Jérusalem a pris la parole. Il était, on le lit dans le chapitre de là, Paul parle de Jean comme cette colonne dans la fondée de Jérusalem. Donc un frère qui n'était pas un disciple, qui n'était pas parti des douze disciples du Seigneur, mais qui, voilà, a vécu, a cru, a suivi celui qu'il appelle esclave de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Il était son esclave. Quelle est la première caractéristique d'un esclave? C'est un mot qu'on n'emploie plus ici. On vit dans un monde où on n'a pas le droit de parler d'esclave. En fait, c'est parce que l'homme va nous détourner le sens. Mais lorsque la parole l'écrit, lorsque nous vivons dans la parole, essayons de bien comprendre ce qu'il y a derrière. La première chose, c'est que l'esclave appartient à celui qui l'a racheté. L'esclave appartient à celui qui l'a acheté. Racheté, il l'a délivré. Acheté, il l'a pris pour lui. Voilà. Et je crois que c'est ça qu'il nous faut retenir. L'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il est là qui se présente comme celui qui appartient à ce Sauveur. Il lui appartient. Nous avons chanté dans notre cantique, et je reconnais cette expression, dans ce cantique en 83, nous sommes à l'abri du vent de la tempête, car nous t'appartenons. Car nous t'appartenons. Et je pense qu'il nous faut garder bien ceci à l'esprit, c'est déjà la première chose. Nous sommes là, chacun ici présent, comme ceux, et qu'il n'y ait personne qui ne soit pas dans ce cas, de ceux qui appartiennent à Jésus. Appartiennent à ce Sauveur qui nous a rachetés. Nous avons eu une expression, on l'a souligné, c'est la fin du verset 18. Engendré par la parole de sa vérité, pour que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. Qu'est-ce que cela veut dire? Prémisse, Christ, nous disons ailleurs. Mais les prémices de ses créatures, dans l'Ancien Testament, l'Éternel prenait pour lui le premier né des troupeaux, des familles. Elles lui appartenaient. Et bien là, l'apôtre vient le souligner. Nous sommes des prémices. Ceux, retenons simplement ceci, ceux qui appartiennent à Christ. Nous lui appartenons. C'est comme tel. Alors, avec cela, mais donc il va s'adresser à la dispersion. À ceux qui sont à la dispersion, à des croyants juifs, nous sommes là peu de temps après le départ du Seigneur. Ces juifs avaient été dispersés. Le livre des Actes nous rappelle comment, à travers des persécutions diverses, ils ont été dispersés dans cette ville, la parole a été développée, a été présentée. Mais voilà, ce sont ceux-là qui sont dispersés, qui sont seuls. En quelque sorte, ils sont là dans différents pays. Et alors, voilà ce à quel paraît la faute. Donc, des juifs qui ont cru, des juifs qui ont accepté Jésus comme un sauveur, des juifs qui luttent aussi, pensez à ce qu'ils doivent lutter pour abandonner ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils avaient annoncé. Et là, maintenant, ils sont partis. Et ils sont là face à ce défi, en quelque sorte. Et la force reste à eux parce qu'il y a beaucoup de choses à leur dire. Le nombre de verbes et d'exhortations qu'il y a dans cette épître est extraordinaire. Il va leur dire tout cela, soulever les difficultés, leur montrer, mettre le doigt sur les choses comme ça. Eh bien, aujourd'hui, qui sommes-nous ici? Nous ne sommes pas des juifs convertis. Je ne pense pas, mais nous sommes de ceux qui sont dispersés au milieu des nations. Nous sommes ici au milieu de la chrétienté professante, en quelque sorte, nous sommes dispersés. Et nous sommes quelques-uns, ici, là, ailleurs. Et nous avons à recevoir cette parole comme cela. Le Seigneur s'adresse. Il s'adresse à chacun de nous. Il a dansé avec nos combats, avec nos luttes, dans un monde qui le rejette, un monde qui n'en veut pas. Voilà comme des Juifs de cette époque croyants et dans un monde qui est persécuté, qui est rejeté. Donc voilà le tableau. Et Jacques est probablement, cette édite est probablement une des premières, un des premiers livres du Nouveau Testament qui s'est écrit. Donc il a toute une, à la fois une fraîcheur, et puis aussi, on y voit les questions qui se posent à ces nouveaux convertis, dans cette nouvelle voie, en quelque sorte. Alors voilà quelques mots d'introduction. Faire un plan de cet épître est très difficile. Plusieurs, on peut en trouver dans les commentaires qui ont été faits. On dira peut-être, on pourrait dire que les chapitres 1 et 2 vont parler de la foi et de la foi et des œuvres de la foi. Les chapitres suivants de la sagesse et des œuvres de la sagesse, mais c'est un découpage qui. C'est un découpage, il y en a beaucoup d'autres. Mais en même temps, on va s'apercevoir que l'apôtre a parlé d'un sujet au chapitre 3, il va le reprendre au chapitre 4. Et c'est par des petites touches, l'une après l'autre, que l'apôtre ainsi s'adresse à ses frères bien-aimés. Donc on va penser à cela, à ses frères bien-aimés. La deuxième pensée, je voudrais le souligner, c'est donc que l'aspect pratique est libre, dans le verset que nous avons souligné au chapitre 21, « Recevez avec douceur la parole implantée et la puissance de sauver sur vos âmes. Mais mettez la parole en pratique et n'écoutez pas seulement. » Voilà un verset clé de cette épître. « Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement. » Nous allons lire un verset dans l'Ancien Testament, de Matthieu 7. Nous lirons d'autres versets tout à l'heure. Matthieu 7, verset 21. Le Seigneur qui parle, c'est. Avant cette parabole de la maison sur le sable, et je lis ces versets, verset 21. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, que le bon parler à un homme prudent qui avertit sa maison sur le roc. Donc, je souligne ce que le Seigneur dit. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ce sont ceux qui font. On voit bien déjà la dire, la profession, et puis faire la mise en pratique. Et c'est ce que Jacques souligne dès le départ, ce que le Seigneur rappelait lui aussi. Un mot sur cette foi du chapitre 3, cette foi et ses œuvres de foi. Simplement un mot sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui a pu troubler peut-être certains, alors qu'il n'y a pas lieu d'être troublé. Nous sommes sauvés par la foi, et ceci est bien clair, c'est l'enseignement, c'est la doctrine présentée par Paul, mais Jacques vient montrer toujours avec cet aspect de la mise en pratique, montrer par vos œuvres cette foi. Et nous lisons donc au chapitre 2 cette fois-ci, l'expression suivante, de même aussi la foi, verset 17, pardon, si elle n'a pas d'œuvre, est morte par elle-même. Mais quelqu'un dira, tu as la foi, mais moi j'ai des œuvres, montre-moi ta foi sans œuvre, et moi par mes œuvres je montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Un peu plus loin, verset 23, verset 22, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, en rapport avec Abraham, et par les œuvres de la foi, par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Mais Abraham crut Dieu et cela lui fut compté à la justice. Ainsi donc, il y a d'abord la foi qui est la foi qui reçoit, qui prend ce que Dieu donne. Et c'est la foi, cette foi-là qui sauve. Et puis il y a la foi devant les hommes qui va démontrer en quelque sorte que l'opération s'est faite, le salut, le témoignage est rendu devant les hommes. Et là voilà pourquoi il est parlé d'œuvres mortes. On pourrait être surpris aussi de temps en temps en disant mais c'est une œuvre morte. Il y a des hommes qui nous entourent et qui accomplissent des œuvres bonnes, des œuvres du bien, qui font du bien, mais des hommes qui n'ont pas cru. Nous voyons autour de nous dans ce monde, il ne faut pas non plus tout condamner. Il y a des œuvres bonnes qui sont faites. Mais alors Dieu les appelle des œuvres mortes. Dans le sens où, pour lui, elles ne comptent pas. On voit bien que ce qui est compté à justice, c'est la foi. La foi qu'Abraham a cru, ça peut être compté à justice. La foi, l'œuvre accomplie par quelqu'un, est une œuvre morte. Quand ce n'est pas une œuvre, comme un fruit de la foi. Alors, sachons apprécier d'abord l'exactitude de la parole. Un homme, des hommes peuvent accomplir de bonnes actions, pourtant ce ne sont pas ses actions qui les sauveront. Voilà pourquoi ils sont morts. Voilà pourquoi pour vous, ils sont morts. Il ne peut pas les prendre en compte. Il ne peut pas les prendre en compte. Par contre, que notre foi, que la foi du croyant, et son fruit qui soit montré, manifesté, alors voilà, une œuvre de foi. Une œuvre de foi qui témoigne, qui est là. Donc, il faut bien faire cette différence et de voir que les hommes qui peuvent accomplir de bonnes choses, mais qui ne sont pas faites comme le fruit de la foi, ce sont des œuvres qui ne comptent pas pour Dieu. Donc, simplement, cette chose. Et puis j'avance encore, maintenant je voudrais dire dans le chapitre 3, un sujet un peu particulier. On va lire donc ces expressions du chapitre 3. On va être sous la lecture, on fera le verset 1 et 2. Ne soyez pas beaucoup de docteurs, mes frères, sachant que nous en recevons un jugement plus sévère. Nous frémissons tous à plusieurs égards. Si quelqu'un ne paye pas dans parole, celui-là est un homme parfait, capable de tenir tout le corps, aussi tout le corps en bride. Verset 5. Ainsi aussi, la langue est un petit membre et elle se rend de grandes choses. Voici un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il ? Et la langue est un feu, la langue un monde d'iniquité établi parmi nos morts. C'est elle qui saute tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et est enflammé par la géhenne. Je dis encore au verset 9. 9 à 12. Mais par elle, nous bénissons le Seigneur et Père. Par elle, nous bénissons les hommes qui font la ressemblance de Dieu. De la même bouche procède la bénédiction et la malédiction, mes frères. Il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine peut-elle jaillir par une même ouverture, le doux et la mer? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus faire de l'eau. Alors nous voilà maintenant, nous abordons un sujet particulier. Nous abordons un des sujets de la loi. Un sujet, tout d'un coup, c'est la langue, notre parole, nos paroles. Alors, vous pouvez insister sur un mot, verset 2, si quelqu'un ne frayait pas leurs paroles, vous êtes un homme parfait. Nous avons vu au début du chapitre, au début de la lecture, que notre foi pouvait être parfaite et que l'œuvre, enfin, que vous soyez parfait et accompli, ne m'entend de rien. Alors, il ne faut pas penser que ce chrétien, cet homme, va accomplir, s'il ne fallait pas en parole, il devient parfait, dans le sens d'une plénitude de perfection. Non. Ce que veut dire la parole, on peut le traduire par un autre mot, c'est être équilibré, mature, c'est la maturité, on a grandi, on a progressé, on a avancé et on voit bien que c'est toute notre vie qui est là. C'est pas à pas, c'est petit à petit. Et on avance ainsi vers cet étage. Et c'est en avançant qu'on peut être, et en pratiquant, en mettant en pratique la parole du Seigneur, que l'on peut ainsi faire ses progrès. Alors, lorsqu'on prend l'exemple sur lequel nous nous arrêtons un instant, de la langue et de nos paroles. C'est un exemple très, très solennel parce que nous, peut-être, on le néglige. Peut-être on pense que ce n'est pas très grave. Et puis, on ne fait pas attention nous-mêmes dans nos paroles, dans nos langages. Peu de fois, peut-être, n'avons pas regretté une parole que nous avons. Avant de pas dire, mais tiens, je ne vais pas le dire. Je pense que tous nous sommes dans ce cas. Et il est très intéressant de voir d'abord comment l'apôtre parle. Nous verrons, vous voyez, que je pense que les expressions du chapitre 2, écoutez, mais pas un animé, c'est simple. On voit bien l'impératif. Et vous, lorsque nous regardons au chapitre 4, de la même manière, résistez au diable, humiliez-vous, sentez-vous misère, ne parlez pas l'un contre l'autre, etc. On voit des exhortations, des impératifs que l'apôtre, que Jacques donne à ses frères, bien aimés. Il les donne avec amour, à ses frères, mais son cœur est pressé. Mais alors là, lorsque nous abordons ce sujet de la langue, eh bien, chers amis, en disant, c'est cette épître, on découvre des trésors. Eh bien, Jacques ne dit plus vous, il dit nous. Dans ce paragraphe, depuis le verset 3 jusqu'au verset, eh bien, il dit vous. Nous mettons le mort des chevaux, nous faisons cela, mais nous disons. Donc, Jacques reconnaît lui-même, il sait, il réalise que lui aussi, cette parole, on nous est arrivé de parler rapidement. Nous avons vu au chapitre 1er, soyez prompt à écouter, lent à parler. On se précipite, et après on regarde. Et alors, je vais citer quelques versets de l'Ancien Testament. Simplement les citer, je les ai notés là, nous pourrons les rechercher, c'est pour montrer que la parole est précise sur ce sujet. Il nous est parlé de notre langue comme d'un fouet. Job 5, verset 21. Il nous est parlé comme d'un rasoir effilé. Psaume 52. nous est parlé comme d'une épée aiguë, psaume 57. Il nous est parlé comme d'un serpent de venin d'aspic, psaume 140. Et puis il nous est parlé aussi, on va lire cette fois-ci dans Jérémie 9, de deux expressions. Jérémie 9, verset 3. Voilà, donc Jérémie, le prophète qui est chargé d'annoncer au peuple la pensée de l'Éternel et qui est en but à ses hommes. Et alors il dit, verset 3, ils bandent leur langue, leur arc de mensonge, et ils ne sont pas vaillants dans le pays pour la fidélité. La langue, un arc de mensonge, une arme. Tout à l'heure, une épée aiguë, voilà, un arc de mensonge. Et puis cet autre verset, au verset 8, leur langue est une flèche mortelle, elle profère la tromperie. Et si nous lisons un peu plus loin, nous allons tourner la page toujours dans Jérémie, et on va lire Jérémie 18, une expression aussi qui est étonnante. Mais qui nous montre d'abord de quelle manière l'homme peut utiliser cette capacité de la création, de ce que Dieu a fait. 18, verset 18. Ce sont les ennemis qui parlent. Les ennemis de Jérémie qui disent, venez, faisons des complots contre Jérémie, car la loi ne périra pas de chez les sacrificateurs, ni le conseil de chez les sages, ni la parole de chez les prophètes. Venez et frappons-le de la langue. Voilà les hommes, frappons-le de la langue. Et lorsque l'on voit ça, lorsqu'on lit cela, je ne réalise pas, que c'est ce que nous voyons dans ce monde. On dit quelque chose et la même chose. On va calomnier. Il y a eu des drames. Il y a des drames qui se sont produits de cette manière. Frappons-le de la langue. Alors voilà ce que l'homme fait dans sa folie. Sans Dieu, voilà ce que l'homme peut faire. Et la parole nous avertit. Et Jacques dit, oui, nous. Voilà ce que nous pouvons faire. Comment, mes chers frères, comment est-ce possible? Il ne sait pas qu'il ne devrait pas le mettre ainsi. Mes frères, alors nous devons bénir et nous dire en même temps. Alors, nous avons cet encouragement, cet avertissement de l'apôtre qui nous dit faites attention. Et je voudrais dire, il y a encore une expression. Nous lirons dans le livre des Proverbes, il y a de nombreux passages qui nous avertissent. Alors, si d'un côté nous savons l'avertissement de ce que l'homme fait, de ce que nous voyons autour de nous tous les jours, de ce que nos enfants, petits-enfants, à travers les médias d'aujourd'hui, tout ce qu'ils peuvent aussi entendre et être l'objet de ces calomnies, de cette mouvance. Le danger est là. Eh bien, l'homme fait cela, mais Dieu avertit et nous sommes, nous aussi, avertis. Je dirais cette expression de Proverbe 18, verset 8, les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au dedans des entrailles. On se précipite pour parler, on se précipite pour répéter. On trouve tous ces versets dans les Proverbes, de ne pas se précipiter, de réfléchir avant de parler. Alors là, on en arrive à se dire, mais quelles sont les ressources? Quelles sont les ressources qui sont évoquées? Où sont les ressources? Mais elles demeurent toujours les mêmes. C'est craindre. Voir notre Seigneur lui-même. Prendre sa parole. Les ressources, elles sont là, elles ne sont données pas. Jacques, la parole, Dieu, sa parole, son esprit. rester près de notre Seigneur et suivre son exemple, celui dont les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des paroles de grâce, une fontaine de vie. Est-ce que mes paroles, elles sont esprit, elles sont vie, une expression, sont nombreuses. Et alors on pourrait retenir cette leçon, chers amis, peut-être pour que chacun puisse se souvenir. On pourrait donner, et c'était quelque chose que nous avons pu faire avec nos enfants autrefois, à l'école du dimanche, les trois portes. Les trois portes. Trois portes d'or. Avant de pouvoir parler, puisque la parole nous invite à réfléchir, à ne pas nous précipiter. La première, c'est est-ce que ce que je vais dire est vrai? C'est déjà la première chose. Bien souvent, ce n'est pas vérifié, bien souvent, en fait, est-ce que la première chose, est-ce que la parole que je vais dire est vraie? Première porte. Deuxième porte, est-ce que cette parole est utile? Est-ce qu'elle va rendre service? Et la troisième chose, inspirée toujours de notre modèle, est-ce que cette parole est charitable? Est-ce que c'est une parole de grâce? Et là, nous voyons bien qu'il faut franchir ces trois portes. Est-ce que lorsque nous franchissons ces trois portes, à ce moment-là, la parole que nous pensons peut porter son fruit? Elle peut porter son fruit. Il ne s'agit pas de couvrir un péché. Il ne s'agit pas de se taire, de dire que ça ne me concerne pas. Il s'agit de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est charitable, est-ce que je peux le dire à mon frère, seul, s'il y a quelque chose, c'est avec lui. C'est de faire comme le Seigneur le faisait, avec douceur, ces paroles qui font du bien. En effet, pour le Seigneur, il me dit que vos paroles soient paroles de grâce, à ces données de sel. Elles sont belles, les fragiles. C'est-à-dire que la vérité doit être là. Mais en même temps, on n'est pas décrit nulle part. Il s'agit d'avoir des paroles de sel à ces données de sel. Non, ce sont des paroles de grâce à ces données de sel. Donc, chers amis, souvenons-nous et essayons de bien garder cela comme un élément parmi beaucoup d'autres de ce que le Seigneur peut faire et veut faire. Et alors, lorsque nous pensons à l'exemple du Seigneur, lorsque nous le voyons agir, jamais le Seigneur ne va se dévoiler, ne va donner publiquement, ne faire une remarque publique pour faire un reproche à un des siens. On le voit pour Jean-Baptiste. Lorsque mon Matthieu dit souvent, disciples de Jean-Baptiste, bien sûr, se plaint. Jamais le Seigneur ne va faire quelque chose qui publiquement puisse être à l'encontre de son enfant, son racheté, son décès. On voit la manière dont l'Éternel parle à Balaam, par Balaam. De quelle manière, tout ce, dans l'Ancien Testament, Abraham et Abimelech. Toutes les choses où chaque fois il y a des choses que Dieu garde, cache et dit à son serviteur, non pas lui. Et bien le Seigneur agit. Alors que nous puissions être inspirés toujours de la manière dont parle le Seigneur. Voilà un exemple que je voudrais aller plus vite. Pour prendre le deuxième exemple, le dernier exemple dans ce livre, qui est la suite que nous voyons, et dans le paragraphe, dernier paragraphe du chapitre 3, donc c'est celui que nous verrons à partir du verset 13. Qui est sage et intelligent parmi vous, que par une bonne conduite il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère, et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale, véronique. Car où il y a de la jalousie, un esprit de querelle, là il y a du désordre, toute espèce de mauvaise action. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, très calme, pleine de miséricorde et de bon fruit, compartialité, sans doute au fruit. Dans le fruit de la justice, dans la paix, se sème pour ceux qui procurent la paix. Donc voilà, encore quelque chose, encore un trésor que vient nous donner là en ce moment, Jacques. Qui est sage et intelligent? Une question qui est posée, sagesse et intelligence. Dans la parole, on trouve ces deux mots souvent racontés, sagesse et intelligence. Évidemment, les livres aux Colossiens, par exemple, un verset, mon premier chapitre. Au chapitre 1er, le verset 9, que vous soyez remplis de toute la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher de manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards. En l'épître aux Éphésiens, un peu avant, au chapitre 5 encore. Prenez donc garde à marcher soigneusement, verset 15, non pas comme étant dépourvu de sagesse, saisissant l'occasion parce que les jours sont nombreux. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc, en quelque sorte, à travers ceci, on voit deux choses. L'intelligence, en quelque sorte, c'est la recherche de la connaissance de la volonté de Dieu. Et la sagesse, c'est la mise, le glissante de cette volonté. Être sage, agir et mettre en pratique la connaissance de la volonté. Alors, qui est sage et intelligent? Et nous voilà maintenant devant cette caractéristique, cet adjectif qui qualifie cette sagesse dans l'air. Alors nous voyons bien que, et nous l'avons dit tout à l'heure, le Seigneur, notre Père, le Seigneur est en haut. Dans la prière. Nous sommes en bas, nous sommes sur la terre, nous avons affronté les combats de la terre, nous allons rendre témoignage sur la terre, mais notre inspiration, notre parole, ce que nous recevons vient d'en haut, c'est une sagesse d'en haut qui vient d'en haut, nous sommes en bas. Nous puisons les ressources en haut pour marcher en bas et pour glorifier en bas notre Sauveur. Alors, premièrement pur, je pense que tous ces adjectifs, l'un et l'autre, sont clairs, simples, purs, c'est-à-dire absence, dans l'absence du mal. Dans, le commandement de l'Éternel, la crainte de l'Éternel, le commencement de la crainte de l'Éternel. Je veux citer ce verset de Proverbe 28, verset 28, que je cite mal, et que nous trouvons Proverbe 28, verset 28. La crainte du Seigneur, c'est là la sagesse et se retirer du mal et l'intelligence. Je pense que la référence est mauvaise. C'est ce verset-là. La crainte du Seigneur, c'est là la sagesse et se retirer du mal et l'intelligence. Donc, à la fois, la crainte, on voit que c'est la crainte du Seigneur qui est à l'origine de tout, la sagesse, se retirer du mal et l'intelligence. Et bien que nous avons là ensuite, elle est paisible, elle est modérée, elle est traitable. D'habitude, ce n'est pas le mot qu'on utilise. On l'utilise dans nos rapports c'est le mot inverse qui est utilisé ici, c'est pour dire intraitable. Et de la sagesse d'en haut, elle est traitable. Elle est traitable, c'est-à-dire qu'on écoute. On écoute tout d'abord son frère. On reçoit de lui. On voit avec lui. On part ensemble. Voilà, c'est extrêmement pratique. Elle n'est pas intraitable. La sagesse d'en haut n'est pas intraitable. Elle est pleine de miséricorde, de bons fruits, sans partialité. Il n'y a rien à faire, même pas faire affection de personne, sans hypocrisie. Pour le fruit de la justice dans la paix, se scène pour ceux qui procurent la paix. Et nous voyons également, j'insisterai sur le verset, la fin du verset 13, montrer ses œuvres, c'est un verset qui est statistique, que par une bonne conduite, nous puissions montrer nos œuvres avec la douceur de la sagesse. Le Seigneur aussi, c'est son exemple, c'est lui qui a montré le chemin, c'est lui qui l'a fait, de quelle manière il a pu participer. Pensons à Matthieu 11. La douceur de la sagesse. C'est ainsi que le Seigneur parle aussi, parler aux hommes. Il a parlé et leur a porté cette douceur. Que ce soit dans nos rapports, dans la vie, que ce soit aussi pour recevoir la parole, nous devons recevoir la parole avec la douceur. Et le premier, recevez avec douceur la parole enchantée qui est la puissance de sauver les âmes. On n'a pas qu'à donner avec douceur, on a à recevoir aussi avec douceur. On n'y pense pas, mais on peut donner, apporter quelque chose, mais recevons aussi. Cette parole que mon frère me donne, elle peut m'apporter quelque chose, je dois la recevoir avec douceur aussi. Voilà que des exemples pratiques que je vais m'arrêter, chers amis. Simplement, terminer en rappelant une chose essentielle, à savoir que notre exemple est le Seigneur lui-même. Que le verset de 2 Corinthiens 3, verset 18, nous dit que nous avons, en quelque sorte, nous tous contemplant la phrase découverte de la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme le Seigneur en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout comme de gloire en gloire comme le Seigneur en esprit? On comprend, on voit l'exemple du Seigneur. On le voit dans son chemin. On l'a vu à travers la manière dont il parlait, la manière dont il agissait à travers sa sagesse. Eh bien, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Nous apprenons d'avoir une petite gloire par-ci, une autre gloire par-là, parce que nous n'allons pas tout apprendre de nouveau. Nous n'allons pas tout recevoir de nouveau. Le Seigneur travaille et il fait, et voilà, il nous apprend. Et nous sommes transformés de gloire en gloire, en la même image. Voilà ce que le Seigneur fait. Et voilà, de cette manière, il peut nous élever. Que la lecture et la méditation de cette vie nous en fait, vous imaginez bien, que survoler quelque chose à travers ces deux, trois éléments. Que nous soyons, nous désirions puiser un peu plus encore. Regardez de quelle manière le Seigneur va nous inspirer et nous parler. Nous avons là toujours cette pensée que nous sommes dans ce monde ici-bas, que notre Seigneur est dans le ciel, que nous sommes ici-bas des ambassadeurs et que ce que nous avons à faire dans ce monde, nous avons à vivre de telle manière que les gens que nous rencontrons puissent se demander et qui est notre maître.
Je propose qu'on chante le 103.
Cent trois.